livre, je vais vous inviter à ouvrir le Saint-Livre dans le Nouveau Testament et nous ferons au fur et à mesure de la prédication quelques lectures pour notre bien spirituel et pour notre croissance spirituelle. Avant toute chose, je vais prier le Seigneur pour qu'il conduise ces moments autour de sa parole afin que nous soyons pleinement enrichis. Seigneur mon Père céleste, je m'approche de toi avec mes frères et sœurs pour demander ta grâce et ta bénédiction sur ces instants où ta parole va être annoncée après la louange, le chant des cantiques à la gloire de ton nom. Nous sommes placés devant toi pour écouter ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous réalisons l'importance de ta parole. Et nous ne pouvons pas en parler à la légère, ni la recevoir à la légère, mais nous voulons être des gens consciencieux devant ta face. Et je te demande, Seigneur, en cet instant, toute ta grâce, toute l'aide et le secours de ton Saint-Esprit, afin que ta parole puisse être véritable dans chacun de nos cœurs et chacune de nos âmes. Nous avons tellement besoin de toi et de ton enseignement dans ce monde qui devient perfide de plus en plus, enténébré de plus en plus. Et nous avons besoin d'être placés sous ton regard et vivre une vie qui soit conforme à toi. Alors que ce matin, la parole qui retentira ne vienne pas uniquement de la bouche d'un homme, mais que cette bouche soit remplie de la puissance de ton Saint-Esprit et de la parole de l'Esprit, afin, Seigneur, que seule ta volonté soit révélée, non pas la pensée humaine, mais la pensée divine. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions les uns et les autres, avec joie, persévérer et progresser dans le chemin de la vie éternelle, qui nous amènera pour toujours en ta présence, et nous t'en remercions, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter donc à ouvrir la Bible d'abord dans le Nouveau Testament et à faire une lecture dans l'Épître de Jacques au chapitre 4 et verset 6. Jacques chapitre 4 et verset 6. Je pense que vous avez trouvé, ce n'est pas difficile à trouver. Mais il donne, en parlant de Dieu, une grâce supérieure. Et la personne de Dieu se manifeste au travers de la parole de Dieu, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. » À cette lecture, j'en ajoute une seconde qui se trouve dans le prophète Michée, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 6 et au verset 8. Je vous lirai le texte dans Parole de vie, qui correspond un petit peu à la Bible Second. Disons que c'est d'autres traductions, et ce matin, dans la méditation, nous parlerons aussi sur d'autres traductions de la parole de Dieu, mais qui rejoignent toujours la pensée divine. Et voilà ce qu'il est écrit dans Michée au chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit ou la droiture, que tu aimes la loyauté ou la justice, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. » Le thème de la méditation que j'ai eu à cœur de méditer en façon personnelle, mais pour l'Église, a le thème de l'orgueil ce matin. Alors bien sûr, ça peut paraître étrange parce que généralement, les gens ne sont pas orgueilleux. Mais peut-être quelqu'un pourrait dire « pas ici » et moi je rajoute « mais ». L'orgueil est une arme efficace de notre adversaire, le diable. Et le diable veut détruire l'Église de toutes les manières que ce soit. Et qui dit Église dit chaque enfant de Dieu. Le diable a une technique et une tactique pour essayer de nous faire trébucher les uns et les autres. Et l'orgueil, c'est une arme que le diable sait employer d'une manière efficace. Et si le chrétien n'est pas vigilant, tôt ou tard, il tombera dans les mailles de l'adversaire qui tisse sa toile et il va commencer à mettre en orgueil l'évidence parce qu'au fond de nous, que nous le voulions ou que ne voulions pas, frères et sœurs, il y a le sentiment de l'orgueil, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens. Et si nous ne vivons pas de manière à être vigilants pour que le sentiment d'orgueil que nous avons de par nature reste ficelé, en tant qu'enfants de Dieu, tôt ou tard, nous aurons des problèmes et nous créerons des problèmes parce que nous n'avons pas su, par la grâce de Dieu, dominer ce sentiment d'orgueil qui devient alors une pierre d'achoppement pour l'Église et aussi pour nous personnellement. Je rappellerai simplement au niveau de l'Église que l'Église, ce n'est pas un monument de pierre tel que Dieu le conçoit. Ce n'est pas non plus un club quelconque dans lequel on peut faire ce que l'on veut. L'Église, c'est chacun d'entre vous. C'est cela que dit la parole de Dieu. L'Église est constituée de pierres vivantes. Et c'est ce que nous devenons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et en tant que pierres vivantes, nous devons aussi nous rappeler que les pierres vivantes viennent s'ajouter sur la pierre de base. La Bible appelle ça la pierre angulaire, sur laquelle, en fait, une pierre angulaire, c'est sur cette pierre-là que les constructions vont se créer, vont se monter. Et la pierre angulaire, bibliquement, c'est Jésus-Christ. Je ne vous en prends rien, je sais que vous connaissez toutes ces choses, mais je me permets de vous les rappeler. La parole de Dieu nous enseigne au travers de 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, ceci, dans Parole vivante. L'apôtre Paul dira à Timothée, « Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, car il s'agit de l'Église du Dieu vivant, qui, telle une colonne, porte et soutient la vérité, un lieu où elle est solidement établie. » Permettez-moi de faire un petit parallèle avec les propos de l'apôtre Paul, notamment en ce qui concerne ceci, « afin que si ma venue devait être retardée. » Et je prendrai cette pensée pour l'appliquer au retour du Seigneur Jésus. Jésus revient. Il ne tarde pas. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais il revient. Et s'il tarde, la Bible nous dit, c'est pour qu'un plus grand nombre d'âmes soient sauvées. Mais il va accomplir. Mais en attendant, que dit-il à son Église? L'apôtre Paul parle par le Saint-Esprit. Et s'il parle de sa venue, nous pourrons prendre le même texte pour l'Église d'aujourd'hui en ce qui concerne le retour du Seigneur. Et voilà ce que l'on peut dire, sans déformer le sens, afin que tu, en attendant, comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Donc il y a un comportement dans la maison de Dieu que chaque pierre vivante doit tenir. Et ce comportement est lequel? C'est que l'Église du Dieu vivant, et il est toujours vivant, alléluia, eh bien elle est une colonne. Et une colonne qui porte et soutient la vérité, un lieu où elle est solidement établie. L'Église de Dieu est porteuse de la vérité. Et chaque pierre vivante est porteur de la vérité, porteuse de la vérité. Ce qui veut dire qu'un chrétien doit vivre dans la vérité. Et non pas dans sa vérité humaine, mais dans la vérité biblique. Et la vérité biblique s'oppose à la vérité humaine dans la marche spirituelle. Un chrétien ne peut pas amener des pensées nocives dans l'Église ni dans sa vie, mais il doit marcher dans la vérité, parce que la parole de Dieu, comme vous le savez, et Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 15, si ma mémoire me trahit bien, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Alléluia. Nous devons prendre conscience de ceci. Ainsi, nous devons comprendre aussi une chose importante. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 5, parole vivante toujours. « En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres ou sacrificateurs mis à part pour Dieu. » À vous qui offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Vous êtes, nous sommes formés et nous devons former un temple spirituel. Un temple qui est à la gloire de Dieu. Un temple où la puissance de Dieu va se manifester. Un temple où il va y avoir l'amour, la miséricorde. Un temple où il doit y avoir des conversions, c'est vrai, mais un temple où il doit y avoir des miracles. Un temple où il doit y avoir la délivrance de ceux qui sont sous la possession de l'ennemi. Un temple où Dieu va agir avec force et avec puissance. Mais un temple où l'orgueil n'existe pas. Parce que l'orgueil, c'est ce qui détruit le chrétien et c'est ce qui détruit une église. Alors, on va se pencher quelques instants sur cela. Je voudrais quand même vous dire que l'Église de Dieu est appelée, non pas à régresser, non pas à être stagnante, non pas à vivre un petit peu comme bon nous semble. L'Église de Dieu est une Église vivante. Nous l'avons lu et nous l'avons dit. C'est une Église qui avance. C'est une Église qui est victorieuse. C'est une Église qui est puissante par le Saint-Esprit. C'est une Église qui va de progrès en progrès, alléluia, et qui ne laisse pas l'adversaire semer des pensées contraires à ce qu'enseigne la parole de Dieu. L'Église doit être forte, et elle ne peut être forte que si elle vit dans la vérité et marche dans la vérité. On ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, comparer l'Église à un club. L'Église n'est pas un club, l'Église n'est pas un moment où on fait de bons moments agréables ensemble. Cela est vrai, la communion fraternelle existe, mais avant tout, c'est semer la vérité, garder la vérité, marcher dans la vérité, vivre de la vérité et parler avec vérité à son prochain. Et ne dites pas tout ça même. Qu'est-ce qui peut empêcher, entre autres, que l'Église puisse croître d'une manière véritable et avec puissance? Qu'est-ce qui peut empêcher? Alors, vous allez peut-être me dire, mais c'est le diable. D'accord, je suis d'accord. Mais ce qui empêche l'Église d'aller de l'avant, c'est l'orgueil qui anime les membres de ceux qui n'ont pas été transformés ou régénérés. Vous me suivez toujours? Nous venons du monde extérieur et nous venons avec nos pensées, nos idées, notre ego, notre moi. Mais quand je viens dans l'Église, quand je deviens pierre vivante, je ne suis plus moi, je suis lui. Dites pas tous amen. Maintenant, réfléchis. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Dans quel état d'esprit tu es dans la présence de Dieu? Est-ce ton moi ou est-ce ton lui? Puisque le jour où je suis converti, je suis devenu temple du Seigneur. Amen. Vous êtes le temple du Seigneur, en collectivité, en individualité. Mais vous êtes vous aussi rempli du Saint-Esprit. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, je ne suis plus moi, je suis lui. Et je ne dois pas me comporter comme moi, mais je dois me comporter comme lui. Alléluia. Alors réfléchis ton comportement de chrétien. Réfléchis bien devant le Seigneur, pas devant moi, devant le Seigneur. Ton comportement est-il un comportement de chrétien? Mon comportement est-il un comportement de chrétien? Est-ce que ma vie de chrétien est agréable à Dieu? Est-ce que c'est une vie remplie de bonne odeur pour Dieu et pour ceux qui m'entourent? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est hypocrite, qui a une façade, mais qui trompe son monde? Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Jamais. Dieu te connaît tel que tu es. Et ce qui te dit ce matin, abandonne ton moi et marche humblement devant ton Dieu. Dis au Seigneur, régénère-moi, transforme-moi, mais pas avec les mots, avec le cœur, avec la sincérité profonde de ton être. Change-moi, Seigneur. Ce n'est pas le tout de le chanter, c'est de le vivre. Et de le laisser faire par son esprit en moi, car nous avons tous besoin de changer pour être agréable à Dieu. Et pour vivre et pour marcher dans la vérité telle que Dieu le demande. Assez d'hypocrisie, assez de mensonges, mais une vie saine, pure, une église saine, pure, qui croit, qui avance, qui combat et qui remporte les victoires. C'est cela que le Seigneur demande. C'est cela ce que le Seigneur veut voir. Vous savez, le diable, je ne vous apprendrai rien, vous êtes chrétien comme moi. Mais c'est un ennemi subtil, rusé, et au risque de vous étonner, je vais vous poser une simple question. Pourquoi Adam et Ève ont-ils été chassés du jardin d'Éden? Je sens que vous hésitez là. Quelqu'un va me dire, avec raison, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est ça? Ah ben oui. Ah ben oui. Alors attendez, il faut bien lire la parole. C'est vrai qu'il y a désobéissance. Mais désobéissance pourquoi? Alors je vais vous le lire. Genèse chapitre 3 verset 5. Le diable s'est présenté à Adam et Ève. Ève a vu que le fruit était beau et agréable à la vue. Donc elle a contemplé quelque chose. Mais le diable a vu là une faille. Et il est venu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit à Adam et Ève? Il leur a dit, écoutez bien, si vous avez oublié le verset. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et qu'est-ce qu'il ajoute là? Et que vous serez comme des dieux. Waouh! Waouh! Moi, je peux être comparé à un Dieu. Il a touché la corde sensible de l'orgueil. Et il a profité de cela pour pouvoir faire que les yeux s'ouvrent, mais que le désir de devenir des dieux grandisse. Alors, mange du fruit! Et tu deviendras un dieu. Et le piège est énorme. Hein? Ils ont mangé. Quel a été le résultat? Est-ce que vous croyez que Dieu a été d'accord avec cela? Mais pas du tout. Ils furent chassés du jardin d'Éden. Jardin d'Éden, lieu de délices, de bonheur parfait. C'était quelque chose d'agréable de vivre dans le jardin d'Éden avant qu'ils ne goûtent du fruit que j'appellerai ce matin l'orgueil, et que l'on veut laisser simplement se développer en nous, parce que le diable, lui, il attise la corde de l'orgueil. Il souffle dessus, cet orgueil qui nous fait tomber, chuter, si on ne prend pas garde. Parce que telle est la parole de Dieu, quand on veut bien se pencher sur ce problème de l'orgueil. Dans le Proverbe 16 et verset 18, il est écrit, Bible du semeur, l'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Non seulement Dieu résiste aux orgueilleux, mais il faut voir aussi que l'on peut perdre son salut par l'orgueil, puisque Adam et Ève furent automatiquement chassés du jardin d'Éden. Les orgueilleux ne sont point agréable à Dieu, Dieu leur résiste, Dieu les combat, et en son temps, s'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas retour à l'humilité, Dieu les détruira. Ah. Deuxième exemple. Qui n'a jamais entendu parler de la tour de Babel? Tout le monde connaît l'histoire de la tour de Babel. Mais avons-nous noté et bien noté ce que les gens qui étaient là du temps de la tour de Babel dirent, alors qu'ils vivaient en communion, alors qu'ils vivaient en unité, alors qu'ils parlaient le même langage? Vous l'avez lu ça dans le texte. Il nous est dit qu'un jour, certains se rencontrèrent et discutèrent entre eux et ils ont dit, Genèse 11, verset 4, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. » Orgueil! Quel orgueil! Et aujourd'hui, le monde, il est commandé par des orgueilleux. À qui va élever la plus grande tour dans sa ville? Mais le chrétien, lui, ne participe pas à ces choses. Le chrétien ne veut pas être élevé comme les hommes s'élèvent. Le chrétien veut être élevé dans le ciel, oui, mais en marchant humblement et en servant Dieu. Pas en recherchant la gloire humaine. Pas en se mettant à l'égal de Dieu. Car pour la tour de Babel, c'était aussi à se mettre à l'égal de Dieu. Toucher le ciel. Eh oui, quelle erreur, quelle erreur. Alors, faisons-nous un nom. Voyez la gloire qui suit. On bâtit jusqu'au ciel et puis on se fait un nom. L'orgueil, cela enfle, cela enfle. Vous savez, je vais faire une petite relation avec une fable de La Fontaine. Je ne vais pas toute vous la citer. Je terminerai simplement parce qu'il nous est dit que la grenouille a éclaté parce qu'elle a voulu s'y faire aussi grosse que le bœuf. Oui, oui, oui. La grenouille a voulu être orgueilleuse, prendre la même forme que le bœuf. Déjà que ce n'est pas joli. Oui. Des fois, on veut se faire aussi gros que ce que l'on croit. Ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Dieu a-t-il laissé faire cette affaire-là? Alors, je lis dans Genèse 11, 7. Allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Vous vous rendez compte que dans cette phrase de Dieu, entre parenthèses, j'ouvre une petite pensée que Dieu parle au pronom pluriel. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Vous l'avez entendu? Que dira-t-il Dieu? Allons, descendons. Et confondons. Ce qui veut dire que quand Dieu a pris cette décision, il n'était pas seul, ils étaient trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Ensemble, ils ont dit, descendons, confondons, divisons. Division, parce que Dieu a fait un tel, ménage, que ceux qui ont eu l'idée, d'un seul coup, ils n'ont plus pu se comprendre. Parce qu'ils ne parlaient plus le même langage et Dieu les a disséminés de par la terre. L'orgueil, ça amène la division. Et quand on dit division, on parle peut-être d'une division intestinale, mais je voudrais vous dire que l'orgueil, ça amène la division dans l'Église. Oui. Ça amène la division dans la famille, oui. Ça amène la division entre les membres de l'Église, oui. Ça amène une division intérieure, parce qu'on ne sait plus où est le bien et où est le mal. Parce que nous sommes tellement sûrs de nous que rien ne peut nous arriver. Mais là, je vous fais remarquer que, en fait, c'est Dieu qui est intervenu. Et quand ça va mal, Dieu interviendra toujours. Pour que le bien demeure et pas le mal. Nous l'avons lu tout à l'heure, il nous est rappelé qu'il faut marcher dans la droiture, dans la loyauté, dans la justice divine. Se soumettre à la volonté de Dieu et ne pas imposer à qui que ce soit des pensées humaines quand on est enfant de Dieu. Il faut rechercher la vie du Saint-Esprit, rester dans la vie de l'Esprit, marcher dans la vérité afin que le peuple demeure uni pour l'éternité. Et l'unité, elle doit être réelle et profonde. Amen. Le chrétien, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais le chrétien, il est celui qui est patient, qui supporte tout. Ce n'est pas une commère. Et je comprends que là, vous ne dites pas amen. Qu'est-ce qu'on publie ? Parce qu'on se croit dans la vérité. Et se croire dans la vérité, c'est un danger. Parce que la vérité, il faut la cultiver en soi. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et notre vérité n'est pas toujours la vérité de Dieu. On veut des fois solutionner des problèmes à notre manière, mais solutionner des problèmes qui peuvent exister entre nous, peut-être au milieu de nous, que sais-je, en apportant nos pensées. Mais ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se taire que de parler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a confondu les hommes en son temps. Ils ne se comprenaient plus. Et il est vrai que si l'orgueil rentre dans une vie ou dans une communauté chrétienne, on ne se comprendra plus. Et quand on ne se comprend plus, la pensée qui vient au bout d'un certain temps, je quitte l'Église. Et alors, tu y gagnes quoi ? À quitter l'Église. Tu vas en trouver une meilleure ? Non ? Tu ne sais pas ? Vous savez, un jour, permettez-moi de dire, mais très fraternellement, je parle peut-être un peu fort, mais veuillez m'excuser, je viens du Midi et d'une région qui s'appelle la Provence. Et je ne suis pas loin de Marseille non plus. Alors, vous avez tout loupé là. Un jour, il y a une personne qui était dans une église. Et au bout d'un certain temps, cette personne, elle a trouvé que son église, elle n'était pas parfaite, elle n'était pas bien. Elle a parlé un peu à tout le monde. Et puis au bout d'un moment, elle a dit, je quitte l'église, je vais dans une autre église. Et il est parti, il est allé dans une autre église. Et alors, elle a rencontré le pasteur, parce que le pasteur a voulu rencontrer cette personne. Et elle a discuté avec lui, et elle en a sorti. Et au bout d'un moment, j'espère que votre église, elle est bien. Et le pasteur, des fois on dit que vos pasteurs, ils sont un peu durs, mais alors là, Dieu, ben ouais, elle était parfaite, mais si vous rentrez, elle ne sera plus parfaite. Oui, oui. Alors bien sûr, ça nous fait rire, mais attention, est-ce que nous ne sommes pas de cette catégorie-là ? Est-ce que nous ne sommes pas de cette catégorie-là ? Réfléchis bien. Qui s'élève contre l'Église s'élève contre Dieu. Il faut savoir, hein ? C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous savez que l'histoire de Babel, elle est connue de tous. Hein. Vous la connaissiez déjà, la tour de Babel. Mais vous ne saviez peut-être pas que c'était un péché d'orgueil. Et quand vous lisez dans Luc, au chapitre 1er, verset 51, vous savez qui a écrit le cantique qui se trouve dans Luc, chapitre 1er, 51 ? Il y a un cantique là. C'est une dame qui a écrit le cantique. D'après vous, c'est qui ? Nous ne partirons que lorsque j'aurai la réponse. Non, c'est Marie, la mère de Jésus. Et dans son cantique, verset 51, que dit-elle ? Écoutez bien. Il est intervenu, en parlant de Dieu, il est intervenu de toute sa puissance. Et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Attention ! Quand des fois on dit « je quitte l'Église », qu'est-ce qui anime ton cœur ? Des sentiments d'orgueil. n'es pas d'accord avec ce qui est dit, tu n'es pas d'accord avec ce qui est fait, tu dis, ben c'est ça, je m'en vais. Orgueilleux que tu es, tu te mets en prière, tu pries, tu restes dans ton église jusqu'à ce que ça s'arrange. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je vous parle comme cela. Soyez pas triste, soyez pas mis les dents au bout. C'est parce que j'aime l'église. Quelle que soit l'église par laquelle je suis passé avec mon épouse, j'aimais l'église. Ça n'a pas toujours été rendu, mais qu'importe, j'aime l'église. Et je parlerai avec vérité. Et ce matin, je vous parle avec la vérité de mon cœur. Mais surtout la vérité de qui vient d'en haut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas votre perte, c'est votre salut. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'Église se divise, c'est qu'elle s'unisse et qu'elle progresse dans la vérité pour un combat contre les ténèbres afin d'être conquérante et d'en gagner beaucoup plus à lui par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Alors, Seigneur, aide-nous. Je vais terminer en vous citant quelques versets. Vous voulez bien ? Merci de votre compréhension. Parce que normalement, tout chrétien, toute pierre vivante se soumet à Dieu et à sa parole. Il n'y en a que quatre qui ont dit Amen. Seigneur, prends pitié. Mais l'orgueil, c'est ce qui s'oppose à la vérité. Et le diable sait faire ça. Il s'oppose à la vérité. Et des fois, on a des réactions qui s'opposent à la vérité. Parce que l'orgueil est là. Alors, il faudrait prendre la décision ce matin, vous et moi, d'écraser l'orgueil qui nous anime. Je ne suis pas orgueilleux, dira quelqu'un. Déjà, de le dire, c'est un problème. Il y en a qui pourraient me dire, mais frère, vous vous êtes trompé, moi, je ne me sens pas concerné. Je suis le plus humble de tous. Tiens donc, tu n'as pas une petite graine là ? C'est vrai, tu es le plus humble ? Ben, commence par te mettre à genoux et demande pardon. L'humilité, je vais prendre un terme fort, hein, mais vous n'allez pas être d'accord, tant pis Seigneur, tu seras d'accord avec moi. Mais l'humilité, c'est être comparé à une serpillière. Ce qui veut dire qu'en toutes circonstances, on peut nous marcher dessus, mais Dieu nous a donné la patience pour supporter. Il n'y en a que quatre qui ont dit Amen. Enfin, merci Seigneur pour les quatre. Alors, je vais vous citer quelques versets. N'oublions pas que l'Église doit être en paix. Amen. Donc, les uns avec les autres, puisque l'Église, c'est un tout. Alléluia. Et ensemble, nous devons observer et mettre humblement les enseignements que Dieu nous donne en pratique pour la croissance de l'Église et pour notre bien spirituel, pour être heureux. Non. Ou alors on n'a pas la même Bible, parce que moi je lis dans la Bible que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bonheur. C'est qu'on soit heureux. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Ah ouais, ben être heureux pour Dieu, c'est mettre la parole en pratique. D'un seul coup, ça diminuait. Et oui, écoutez bien. Dans 2 Corinthiens chapitre verset 11, il est dit, parole vivante, « Mes frères », et j'ajoute entre parenthèses, « mes sœurs ». Bon courage, dira-t-il, et à bientôt. C'est-à-dire qu'il quitte l'église de Corinthe. Moi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la dernière et première fois, ou première et dernière fois que vous me verrez, mais je vous dis quand même, à bientôt. Soyez dans la joie. Vous inquiétez pas, je cherche la joie. Tendez vers la maturité réelle. Encouragez-vous mutuellement. Prenez notre appel à cœur. Restez bien unis. Les yeux rivés sur le but commun. Quel est votre but ? Neymar. Ben oui, il court toujours vers le but. Non, votre but, c'est le même que le mien, du moins j'espère. La vie éternelle. C'est ça notre but. L'apôtre Paul dira, je cours. Derrière quoi ? Un ballon ? Non, je cours pour gagner le but. La vie éternelle. Vivez donc dans l'harmonie et dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous avez remarqué le mot de 5 lettres qui vient d'être dit ? Seigneur, je suis sourd, hein, ou j'entends pas. Quel mot ? Eh bien oui, ça c'est pas celui-là qu'il fallait dire. Non plus. Alors, ce qui veut dire que quand je dis alors, il y a une condition juste avant. Et la condition, c'est d'obéir à sa parole. Alors, Dieu dit, alors, quand vous ferez ce que je vous dis, quand vous mettrez en pratique, individuellement, collectivement, familialement, alors je serai avec vous. Mais sans cela, vous allez passer à côté de la bénédiction, à côté de la victoire, peut-être à la limite, à côté du salut. C'est pas parce que j'ai été baptisé que je suis sauvé. C'est parce que je vis la parole de Dieu. C'est ça qui sauve. Alléluia. Ah, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Hein? Et si l'un a sujet de se plaindre, oh, ça arrive ça? Vous vous êtes déjà plaint de quelqu'un, vous? S'il y en a un qui me dit non, je le mange. Eh oui. À se plaindre de l'autre. Ah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends un fusil, pouf, tu l'abats. Non. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. Moi, m'abaisser à lui demander pardon? Ça va pas, non? Orgueilleux. À qui tu veux plaire? À toi ou à Dieu? Pas facile, hein? Ah, j'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je parle en connaissance de cause. C'est pas facile d'être abaissé, humilié, injurié. Intérieurement, vous avez là ça. Vous sentez que si vous n'étiez pas chrétien, humainement, vous lui faites sa fête. Mais quand Dieu vous donne la force, après prière, d'aller trouver celui ou ceux qui vous ont, entre guillemets, fait beaucoup de mal avec la langue, et vous allez vers eux avec « Seigneur, donne-moi ton amour ». Et vous allez leur serrer la main, les embrasser, et vous dites de tout votre cœur, parce qu'il faut que ce soit sincère. Que Dieu te bénisse. Vous en recevez derrière une grande bénédiction, une paix réelle, une joie profonde, une vie de l'esprit qui vous anime. Et Dieu est glorifié. Oui. Pardonnez-vous. Réciproquement. Pour que l'Église soit belle, pour que l'Église soit forte, pour que tu sois un témoin fidèle dans l'Église et dans ta famille. Sois fort, mais fort de la puissance de Dieu, fort de l'amour de Dieu. Et tu verras sa gloire, pas la tienne. Dans Luc au chapitre 6, versets 27, 28, il est dit « Quant à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous dis aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous témoignent de la haine, invoquez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, intercédez pour ceux qui vous calomnient méchamment. » Ouais, tu es prêt à ça ce matin? Tu es prêt à pardonner? Toi qui te tiens devant le Seigneur ce matin, toi qui as encore peut-être des pensées amères qui sont en train de te détruire, pire que l'absinthe, qui est un poison violent et qui va te détruire parce que c'est le diable qui va le faire. Et il va encore attiser ton orgueil. Mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas aller demander pardon. Tu vas... Mais mes amis, comment prenez-vous la Sainte Cène si vous ne savez pas pardonner? Vous injuriez Dieu quand vous prenez une Sainte Cène sans vous être pardonnés les uns les autres. Où voulez-vous aller? Au ciel ou en enfer? Où? L'Église doit être belle, belle aux yeux de Dieu. Mais l'Église est un lieu où il y a la guérison divine, la guérison physique, la guérison morale, où on se fait du bien, on l'a entendu ce matin, mais que ce ne soit pas des mots, que ce soit réel. On est heureux ensemble, on vit heureux ensemble, et s'il y a un petit titillement, on se pardonne, on s'embrasse d'un saint baiser, comme le dit l'apôtre. Et on ne reste pas à se tirer dans les pattes, à se juger. Mais souvenez-vous la parole. Qui es-tu, toi qui juges? On n'a pas le droit de juger, nous. On a le droit d'aimer. Alléluia. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 2 et 3. Mettez le comble de la joie à la joie, afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez-vous les autres, estimez les autres supérieurs à vous-même. Sœur Squette, qu'est-ce que vous me demandez? Moi, je ne demande rien, je vous dis ce qui est écrit. Mon frère, n'aie pas peur, mais tu es supérieur à moi. Tu es capable de dire ça à ton frère? Tu es capable de dire ça à ta sœur? Et vous tous, vous êtes supérieurs à moi. Ouais. Tu es capable, ce matin, de dire à ton frère, à ta sœur, avant de sortir, tu sais, je t'aime parce que tu es supérieur à moi. Tu es capable? Ou es-tu de ceux qui, oh, lui, il ne comprend rien? Alors là, ce n'est pas être supérieur. Hein. Ça, c'est être... Ah oui, il y en a deux qui ont compris, je vais tout reprendre. C'est être orgueilleux. Oui, tu es un orgueilleux. L'humilité, ça s'apprend, ça se travaille à l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière. Alléluia. Ah oui, Seigneur, fais-moi du bien. Apprends-moi à être humble. Je veux être humble. Non pas pour qu'on dise, regardez, il est humble. Non, ça serait rentrer dans une forme d'orgueil. Non, c'est à être humble pour mieux te servir. Pour mieux te servir, pour en gagner quelques-uns, Seigneur, par ta grâce et par mon témoignage. Et là, j'ajoute, écoutez bien ce que dit Paul, si je le puis, qui est plus grand que Paul ce matin? Pas moi, mais lui, il disait, si je le puis, il était humble, dans un ministère béni et fécond. Qui dirait le contraire, aujourd'hui? Qui se prend pour Paul? Si tu te prends pour Paul, tu dois aimer tout le monde, et le servir mieux que tout le monde. Je parle de Dieu. Tu comprends ça? Alors, la parole de Dieu dit ceci. Ça sera ma conclusion. Et là, vous pouvez tous dire amen. L'orgueil nous amènera à prendre des décisions ou à avoir des comportements qui seront toujours contraires à ce que Dieu nous demande. Ça, c'est l'orgueil. Il nous demande d'accomplir des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui nous éloignent, qui nous écartent de Dieu. Mais Dieu usera de patience, de compassion à l'égard de chacun d'entre nous. Ça, c'est la vérité, la parole de Dieu le dit. Alors, deux versets pour terminer. J'en avais noté d'autres, mais le Seigneur est là et je veux lui laisser toute la place et toute la gloire. Dans Parole vivante, Romains chapitre 13, 10, 11, disais-je, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. J'ai une question quand même. Vous permettez que je vous pose une question? Est-ce que vous vous aimez? Hein? Vous avez raison, hein? Vous pouvez dire, oui, je m'aime. Hein? David l'a dit avant vous, hein, d'une autre manière. Et je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature si agréable, si belle, si agréable. Waouh! Oui, mais je vais vous dire un secret, parce que ça, il ne faut pas le prendre toujours au sens direct. Moi, je suis beau, j'espère. Non, pas physiquement. Ouais, parce que là, vous ne m'avez pas connu quand j'avais 16 ans, 17 ans. J'avais des cheveux. J'avais un crâne onduleux. Et j'étais tellement si beau. Ça, c'était l'orgueil, c'est moi qui le dis. Eh bien, j'étais parfois convoité. Mais vous avez fait tous pareil, vous qui avez mon âge. Même les filles, même les demoiselles, les dames qui ont un certain âge quand elles étaient jeunes. Faut se faire belle. Moi, je ne parle pas de la beauté extérieure. David avait aussi une beauté intérieure. Et c'est cette beauté-là qu'il faut développer. Prenez soin de votre corps, c'est écrit. Mais prenez soin de votre être intérieur, qui soit semblable à Jésus-Christ. À celui qui est devenu notre sauveur, alléluia, et qui nous conduit vers la vie éternelle. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons. Est-ce que vous le savez en quel temps critique nous vivons? Il y a plein de signes qui se mettent en marche dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin. Vous écoutez les informations, vous serez aussi bien éclairés que moi. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. Alléluia. De quoi? Parce qu'il y a des temps difficiles? Parce que ça gronde un peu de tous côtés? Mais non, c'est ces périodes que nous vivons là, qui sont des heures exceptionnelles. C'est parce que le Seigneur revient. J'ai pas bien entendu là. C'est parce que le Seigneur revient. Alléluia. Alors, c'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il revient. Suis-je prêt? Suis-je prêt? Suis-je humble? Suis-je au service de mon Seigneur? Suis-je celui ou celle qui porte des fruits à la gloire de son nom? Suis-je celui ou celle qui répand la paix autour de soi? Car heureux celui qui procure la paix. Alléluia. Tu veux que l'Église soit bénie? Tu veux que l'Église dans laquelle tu es soit bénie? Fais le nécessaire. Fais le nécessaire. Place-toi devant le Seigneur. Et si tu as de l'amertume quelque part, réconcilie-toi afin de prendre une coupe de bénédiction et non pas une coupe de malédiction. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Ne reste pas à l'écart. Rester à l'écart, c'est se faire dévorer par le diable tôt ou tard. Reviens parmi tes frères et sœurs. Construis avec eux. Construisons ensemble l'Église de Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit agir et rétablir toutes choses. Afin que dans l'Église de Christ, Dieu parle avec force, avec puissance. Qu'il agisse avec des miracles. Qu'il révèle l'avenir au travers des dons spirituels. Qu'il nous réconforte. Qu'il convainque la jeunesse. Qu'il est temps de se convertir. Car il revient bientôt. Et que le monde ne peut pas apporter la paix, mais n'apportera que des fardeaux et des épines. C'est en Christ que l'on trouve la consolation et la victoire. Il est mort pour cela. Alléluia. J'ai dit que j'en lisais deux, je termine. 1 Pierre 3, 8, 9. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je citais ce verset où il est dit « supportez-vous ». Supporter, ça veut dire porter. Je porte sur, je supporte. Alors, je vous cite ce témoignage simple. Un jour, un missionnaire qui évangélisait en Afrique est arrivé dans un village. Il y avait là des enfants qui jouaient. Et subitement, son regard s'est porté sur un enfant, un ado d'une douzaine d'années, qui emportait un autre sur ses épaules de 3 ou 4 ans et qui jouait avec ce garçon sur ses épaules. Alors, il jouait, il allait, il venait, tout ça. Alors, à un moment donné, le missionnaire, il est venu, s'approchait de lui avec beaucoup d'amour et pensant que ça devait être quand même difficile pour lui. Alors, il est venu, il a dit, écoute, je te vois aller, venir, courir avec ce garçon-là sur tes épaules, tu es un ado, ça doit être lourd, hein, ça doit être difficile à jouer, à porter ce garçon-là, ce fardeau sur tes épaules. Le gamin de 12 ans, une douzaine d'années, l'a regardé et dit, monsieur, lui là, c'est pas mon fardeau, c'est mon frère. Vous avez bien compris? C'est mon frère. Alors ce que tu as dit, toi, c'était pas clair. Sa joie, c'était de jouer avec son frère sur ses épaules, pas un fardeau. Même si ça était lourd, même si ça le fatiguait, non, c'est mon frère. Supportez-vous les uns les autres. Bon, ça ne veut pas dire que dimanche prochain, vous venez tous avec quelqu'un sur les épaules. Je parle de mon frère. Ça ferait drôle, hein? Ou alors moi, je vous dirais, enfin, quelqu'un qui a compris la parole. Gloire à Dieu. Je finis mon verset. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Rendez compte, quand on lit de tels versets, ça ne peut que vous encourager. Alléluia. Vous encourager à être bon. Vous encourager à vous supporter les uns les autres. Fais-moi du mal, je t'aime quand même. Alléluia. On n'ira pas jusque-là quand même. Hein. Mais je t'aime tel que tu es. Amen. Je t'aime tel que tu es. Oui, oui. Je ne vais pas détruire tout ce que j'ai dit, mais simplement vous direz, parce que c'est une vérité. En tout cas, je me mets dans cette vérité-là. On a des qualités. Hein, que vous avez des qualités. Vous n'avez pas de qualités? Si, vous avez des qualités. Mais vous avez aussi des défauts. J'ai des défauts. Alors je remets tout ça dans les mains du Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, façonne-moi à ta gloire. J'ai encore des progrès à faire, Seigneur. J'ai encore des progrès. Là, je suis peut-être bon. Mais là, alors là, pas bon du tout. Hein? Un petit, simplement, comme à l'école, comme quand j'étais au lycée, tout ça, on avait le bulletin trimestriel. Et dans des matières, on était bon, dans d'autres, moins bon. Et à chaque fois, j'aime reprendre cet exemple, mais il parle tellement. Et chaque fois, au bas, le responsable de l'école, pour ne pas dire le directeur, mettait bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Ça veut dire qu'il fasse encore des progrès. Et voyez-vous, ce matin, en terminant, je dirais, notre divin directeur, s'il nous envoyait son bulletin trimestriel avec les catégories pardon, offense, aimer, qu'est-ce qu'il mettrait à côté? Peut mieux faire. Seigneur, j'aime. Oui, tu aimes. Mais continue à aimer davantage. Vous voyez? Alors que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse chacun en individualité. Que vous soyez d'un âge certain. Que vous soyez jeune. Vous tous qui êtes là ce matin. De tout mon cœur, je dis, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Et que par ton Saint-Esprit, il progresse dans la vérité. Il progresse dans l'humilité. Il progresse dans le service. Il progresse pour que ton Église soit belle et que tu la bénisses, au-delà de tout ce qu'on peut demander et espérer. Seigneur, qu'il n'y ait pas en nous de faux langage, qu'il n'y ait pas en nous de fausses pensées, qu'il n'y ait pas en nous de la fausse humilité, qu'il y ait ta vérité. Que chacun marche et vive de ta vérité. Et alors, Dieu bénira l'Église, plus que ce que vous l'avez connu. Parce que Dieu, lui, quand il promet, il agit et il donne avec abondance. Mais il faut savoir aussi, mes frères et sœurs, se placer devant le Seigneur, se mettre à genoux, lui demander pardon de ne pas avoir été conforme, d'avoir porté nos regards peut-être plus vers le monde que vers lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle et il dit, rectifie ton tir, rectifie ta marche et continue sur le chemin sur lequel je t'ai appelé, sans dévier ni à droite ni à gauche, mais restant sur ce chemin qui te conduit à la vie éternelle par la mise en pratique de ma parole. Amen.